Radio Primitive.
Curieux et engagé.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Égrégore où on va faire une émission qu'on voulait faire depuis un petit moment déjà, mais il nous a fallu déjà un peu de temps pour avoir du recul et puis pour pouvoir trouver les camarades adéquates pour nous en parler. Comme vous le savez, malheureusement, l'actualité est souvent concentrée par une série de faits divers. Et comme disait un sociologue dont j'ai oublié le nom et dont j'ai pas envie de le prononcer, ben le fait divers, ça sert effectivement à faire diversion, quoi. C'est-à-dire que on est tout le temps plongé sous le feu de ces faits divers, de ces actualités. On ne parvient plus ni à comprendre ni même à tenter d'expliquer le pourquoi du comment de ces événements qui, certes, rythment nos vies, mais sont le signe, en tous les cas, de choses qui sont beaucoup plus profondes à l'intérieur de la société. Alors, le dernier fait divers très important qu'on a eu dans notre ville, vous en avez bien évidemment entendu parler pour les Rémois, mais je le précise pour les auditeurs des autres villes, c'est la mort, le décès, l'assassinat d'une infirmière à l'hôpital Robert Debré il y a bientôt cela de 2 mois par une personne qui manifestement était en grande situation de précarité matérielle et évidemment dans une souffrance psychique et mentale très très puissante. Alors ça nous a donné envie parce que on n'est pas là pour commenter les faits divers, hein, c'est pas fait entrer l'accusé ici, mais ça nous a donné envie de parler à nouveau, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de le faire, de la situation de la psychiatrie en France, et puis d'une manière générale de comment on fait quand on va pas bien, et comment quelle est la réponse qu'apporte la société aujourd'hui, qui se caractérise par un système économique qu'on appelle le capitalisme, face à tous les malaises, à tous les mal-êtres qu'elle crée et qu'elle génère en son sein, et quelle solution, s'il y en a, elle en propose. Et pour ça, j'ai fait appel à 2 camarades d'une association qui s'appelle UMAPSI, qui ont 3 camarades. Oui, il y en a un troisième, mais il est en train de bosser, donc il va peut-être pas tarder à arriver. Auquel on avait déjà eu recours pour à la fois leurs compétences sur le sujet et leur positionnement particulier de l'association dans lequel et laquelle, puisqu'il y a une camarade, ils sont actifs. Déjà, peut-être, première chose pour les auditeurs qui connaîtraient pas l'asso, est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement, enfin même pas forcément rapidement, qu'est-ce que c'est qu'UMAPSI et à quoi ça sert?
Ben, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est UMAPSI? C'est une association loi 1901 qui a été fondée en 2011. Et à quoi ça sert? Ben, ça sert essentiellement non pas à commenter les faits divers, mais plutôt à essayer de communiquer au grand public que dans la psychiatrie, tout n'est pas jeté. Parce que nous, on peut témoigner d'une certaine forme de soutien qui est réellement un soutien, dans le sens où on a des appuis solides avec une équipe plus ou moins stable qui nous permet de pouvoir continuer à vivre parmi le commun, voilà, sans trop de difficultés. L'association UMAPSI, elle est née en 2011. En fait, c'est suite au discours de Nicolas Sarkozy en 2008, suite encore une fois à un sordide fait divers. Et comme souvent en France, après chaque fait divers, il y a une loi. Et là, en l'occurrence, la loi, c'est la loi du 5 juillet 2011. Autrement appelée loi relative aux soins sous contrainte, y compris en ambulatoire. Et il se trouve qu'au moment des discussions autour de cette loi, entre 2008 et 2011, on a beaucoup entendu de bruit et même de cris de gens qui réclamaient « enfermez-les tous et jetez la clé ». Toutes ces voix émanaient y compris d'associations qui disaient, enfin, ou qui voulaient faire croire qu'elles représentaient les patients suivis en psychiatrie. Ça nous a poser évidemment un problème, parce que nous, cette loi, on n'était pas vraiment pour tout dire, on était même carrément contre. Et le fait que les associations de l'époque qui parlaient en notre nom disaient que oui, il faut faire ça, nous on s'est dit, on va faire une association pour dire que non, c'est pas ça dont on a besoin, ce dont on a besoin, c'est plutôt des gens compétents. Avec qui on peut discuter y compris de la façon dont on souhaite être traité, parce qu'on peut parler de traitement, hein. En psychiatrie, la base générale aujourd'hui, c'est le traitement. Et par traitement, ils entendent plutôt cachet, médication, voire enfermement et ligotage. Enfin, autrement appelé isolement et contention. Voilà. À ce moment-là, en 2011, on a fondé l'association.
Alors, ça serait un mélange entre un auto-support, on va dire, et en même temps l'envie de compter en tant que le mot est un peu dégueulasse mais je vais l'employer quand même, psychiatrisé, c'est-à-dire d'avoir voix au chapitre par rapport à tous ces gens qui parlent du problème, mais on va dire ceux qui sont les principaux concernés par entre guillemets le problème, et ben on les entend jamais, quoi, on les entend très peu, quoi.
Ben exactement, ouais. Voix au chapitre, c'est peut-être un peu fort, parce qu'en réalité, en France, le système est fait de telle manière qu'il y a seulement 5 associations qui sont reconnues sur le plan national, et elles seules ont voix au chapitre. Il se trouve, et ça, on peut retrouver facilement la trace, y compris sur le site du gouvernement, les associations qui nous représentent, alors, soit elles sont par pathologie, c'est-à-dire on va avoir des associations comme spécial bipolaire, spécial dépressif, spécial autisme, mais voilà.
Je mélange pas, quoi.
Non, voilà, il faut bien cliver de manière à ce qu'il n'y ait pas une seule voix qui émerge, quoi.
Vous m'entendez là?
Ouais, c'est mieux si tu parles dans ton micro.
Ouais, c'est le casque, alors que j'entends.
Ben oui.
C'est pas grave. Oui, ce qui était une évolution inquiétante pour nous à partir de 2011, effectivement, c'est ce rappel de, enfin, la réaffirmation d'une mission sécuritaire à la psychiatrie, alors qu'elle a sans doute toujours été présente. Hein, donc, qui a permis de mettre en place en 2011 donc des programmes de soins sous contrainte en ambulatoire, c'est-à-dire la possibilité de prolonger les traitement imposé, contraint, qu'on reçoit à l'hôpital, enfin contraint, éventuellement contraint, hein, mais de pouvoir généraliser ça à la sortie, enfin poursuivre ça à la sortie de l'hôpital, pour rassurer la société sur le fait qu'il n'y aurait plus, enfin c'était le mot de Sarkozy, même si ça n'arrive, même si c'est très rare, plus jamais ça doit arriver, même si c'est un cas de temps en temps, il faut faire en sorte que les. Voilà, donc avec cette idée que qui assimile la maladie mentale ou à la dangerosité. Alors là, on vient d'en reprendre une louche, hein, évidemment. Moi, j'ai plus envie de dire fou, folie, parce que même si parfois on aimait bien ce mot, mais quand il y a quelque chose d'affreux qui se produit, comme dernièrement, là, c'est OK de parler de fou ou de folie, comme si ça nous aidait à supporter l'idée qu'un acte atroce puisse être fait par un humain comme nous, quoi. Et donc cet humain comme nous, on va le sortir de notre humanité commune, et voilà, en le nommant fou, voilà, pour rendre ça peut-être plus supportable. Ce qui est emmerdant avec cette idée, enfin, qui se renforce comme ça de temps en temps sur la dangerosité, ou c'est que ça reproduit, en tout cas ça, souvent ce qu'on entend, c'est que c'est tout de suite ce qui s'est passé dans le cas récent. Il avait arrêté son traitement. C'est-à-dire que s'il y a toujours la suspicion, est-ce que c'était le cas, est-ce que c'était pas le cas, est-ce que ça faisait deux jours qu'il l'avait. Enfin, en tout cas, c'est l'arrêt du traitement. Et donc, ça construit ce modèle de finalement, il y a des personnes pour qui, à part une sorte de camisole chimique qui devrait être très efficace, mais qui, en plus, ne l'est pas nécessairement tant que ça, il n'y a rien à penser. Et c'est en fait ça qui est très. Enfin, c'est ça qui va nous rendre malheureux, parce que ça va concerner après même un peu tout le monde, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a fait la contrainte au traitement possible en ambulatoire, c'est qu'on est rentré dans un modèle où le grand dogme aujourd'hui prétendument pour déstigmatiser, c'est de dire c'est des maladies comme les autres, sous-entendu des maladies qui se soignent comme des maladies somatiques mais du cerveau. Et donc avec uniquement une intervention médicamenteuse et en oubliant toute la part de, alors pas nécessairement de psychothérapie, hein, mais toute la part des accompagnements qui peuvent être proposés pour que quelqu'un puisse
supporter l'aliénation sociale,
supporter la vie, avoir une vie plus supportable. Mathieu, qui est pas encore là, parle souvent de lieu sûr, mm-hmm. de pouvoir se reconnecter avec des lieux. À d'autres personnes, d'autres humains, des patients de ces endroits et les professionnels, ou voilà, de se reconnecter dans une atmosphère où il y a quelque chose de la dureté du monde qui est suspendu, quoi. Donc c'est une espèce un lieu sûr, c'est un lieu où ne pèse pas autant qu'ailleurs tout ce qui peut être produire des désajustements pour les personnes, c'est-à-dire les personnes qui ne s'adaptent pas au monde tel qu'il est, elles peuvent développer des souffrances, quoi. Et disons que même s'il y a une maladie, admettons, mais le contexte de vie est toujours hyper important sur la façon dont elle va évoluer. Et c'est pas juste qu'elle soit diagnostiquée et traitée médicalement qui va permettre à la personne d'évoluer vraiment, quoi.
Il y a toute une palette de aller bien à aller un peu moins mal, mais effectivement d'avoir des espaces où on peut aller un peu moins mal. Et dans ce que vous avez présenté là, on voit combien cette question, finalement, elle est fondamentalement politique, quoi. Combien elle signifie qu'elle pose la question de comment on vit en société et dans quel type de société on a envie de vivre, quoi. Alors, vous avez déjà évoqué plusieurs notions qui vous sont familières, mais qui sont un peu mystérieuses pour moi. Vous avez parlé de soins, vous avez parlé de contraintes, vous avez parlé d'ambulatoire, etc., etc. Alors, ouais, bon courage pour la question, la réponse que je vais vous poser. Je vais essayer de pas faire une thèse, mais bon, quand même. Comment ça marche, la psychiatrie en France, et comment ça se passe quand on va pas bien et qu'on s'adresse à son toubib? C'est quoi les différentes étapes? Enfin, comment ça fonctionne, quoi, cette merde?
Ben, en fait, il va y avoir plusieurs voies d'accès, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, soit quelqu'un va pas bien, par exemple, relatif à son travail, ou il pourrait se sentir près du burn-out, ou un peu sous la coupe d'un chef tyrannique. Bon, ben, il va avoir recours à son médecin généraliste dans un premier temps, et là, c'est souvent fatal, parce qu'il va se retrouver, là, pour le coup, avec une prescription médicamenteuse, et ça va être tout. Un autre accès...
Je t'interromps, on va préciser quand même que la France, rapportée à son nombre d'habitants, hein, bien évidemment, est le premier consommateur d'antidépresseurs et d'anxiolytiques à le monde. D'accord. Au monde.
C'est tout à fait vrai. Monde. Et les premiers prescripteurs, ce sont justement les toubibs généralistes. Ensuite, un autre chemin d'accès, ben, ça va être la police qui vous ramasse dans la rue ou dans n'importe quel endroit parce que vous êtes un agité. Et là, ça va être déjà pas la même chanson parce que souvent, ça va être contention par les pompiers, contention aux urgences avant le transfert dans un service vraiment dédié, un service de psychiatrie. Où là, il va y avoir plusieurs options qui vont se présenter, quoi. Suivant l'endroit où on tombe, on ne va pas être traité de la même manière. Et puis, il y a encore. Donc là, on va être dans le cadre d'un SRDE, ça s'appelle. Ça veut dire. Le maire ou le préfet ou un médecin qui décide de vous placer en psychiatrie. Donc vous êtes là sous contrainte. Et puis il y a une autre voie, c'est les soins libres. C'est-à-dire, vous connaissez un psychiatre, vous n'allez pas bien, et là, il peut vous faire hospitaliser ou vous proposer une thérapie ou un traitement et tout ça. Donc en gros, voilà, c'est les schémas qui donnent l'accès à la psychiatrie, c'est à peu près ces trois-là, quoi.
Après, il faut ajouter quand même que donc, en psychiatrie publique, donc il y a quelque chose qui s'appelle la sectorisation et qui fonctionne plus vraiment, mais qui fait qu'on est adressé en fonction de son, de où on habite, à un service précis. Et maintenant, tout le monde est au courant que pratiquement, il y a dans la plupart des villes, il y a entre les déserts médicaux, ça, voilà, il y a aussi ça, mais même il y a trop de demandes par rapport, enfin, en gros, les listes d'attente, c'est-à-dire que si on est en demande de soins et si on vient chercher de l'aide, la réponse peut être différée très longtemps parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et alors qu'effectivement, on a souvent affaire à la psychiatrie, on va dire par à l'occasion d'une décompensation, à l'occasion d'une crise en fait. Mmh. C'est-à-dire à l'occasion d'un moment où les gens autour, même s'ils n'ont pas trop envie, ils sont dépassés et donc ils vont solliciter une hospitalisation pour la personne. Donc tu rentres en psychiatrie à partir de ce moment,
C'est déjà super tard, quoi.
C'est déjà super tard, ouais. C'est souvent super tard. Et après, idéalement, tant pis, cette entrée dans les soins, elle se fait de façon un peu catastrophique, mais est-ce que derrière, il va se passer quelque chose d'intéressant ou pas ? Donc, si tu rentres, en effet, par la crise, tu vas arriver donc, sous contrainte à l'hôpital. Et à partir du moment où on a été repéré, enfin, où on arrive en psychiatrie sous contrainte, et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont des diagnostics...
100 000 par an.
Le truc, c'est que derrière, la psychiatrie sécuritaire, c'est la psychiatrie de surveillance qui ne veille pas nécessairement sur les gens, qui les surveille, qui est tenu de savoir où ils sont. Enfin, le grand mot, c'est qu'est-ce que foutait ce mec dans la nature. C'est normal que la question soit posée et c'est normal que... Voilà. Mais l'instrumentalisation de cet événement-là, c'est que, effectivement, comment prédire... Enfin, en gros, pour promettre que plus jamais ça arriverait, il faudrait que plus personne jamais ne sorte de l'hosto ou ne sorte d'un programme de soins extrêmement coercitif et tout ça, qu'il avait peut-être hein, d'ailleurs, qu'il avait même sans doute. Voilà, donc ce problème, c'est que ça devient un peu un modèle général après. C'est-à-dire que, on aimerait bien que quelqu'un ait arrêté ce mec avant qu'il tue cette pauvre femme et tout ça, c'est horrible. Mais comment ça aurait pu être évité, prévenir ce genre de choses, ce serait que, bah, que les personnes elles puissent se confier. Enfin, il y a des choses qui précèdent. Ce type va c'est très ça. Mal depuis des jours. Il a pu en parler à personne. Enfin, comment dire. Apparemment, il était. Enfin, on peut entendre quelque chose. Les gens sont délirants, certes, pour produire quelque chose. Sans doute qu'il était. Il sera. Enfin, il est considéré comme. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que. La seule façon de prévenir ce genre de choses, en effet, c'est qu'il y ait des lieux de confiance où quelqu'un qui est en train de se mettre en rupture de la société comme ça, et nourri, et avec des haines, y compris des gens qui seraient la psychiatrie, ou les. Là, on est arrivé au point où c'est trop. Ça aurait pu.
Ce qu'on disait pour préparer cette émission, ce n'est que la conséquence, la causalité d'une longue chaîne de quelque chose qui se sont rajoutés, etc.
Et que moi, je trouve que, je pense aussi à Annecy, et ça, c'est encore une autre histoire, parce qu'à Annecy, la personne, on ne sait pas à l'heure actuelle. Son état psychique, on ne le connaît pas. Mais tu te dis, il y a une forme de. Il y a un endroit où il y a un abandon collectif, il y a une déresponsabilité. Enfin, on délègue. Il faudrait qu'il y ait des services pour s'occuper des gens qui vont très mal. Et ils y sont pas, quoi. Ou je sais pas. Et puis après, c'est une responsabilité collective, je trouve, qui serait de se soucier de ce que si les gens sont trop malmenés par l'existence. Oui, ça peut aussi. Mélanger à peut-être en effet une maladie, mais être malmené par l'existence, oui, ça peut provoquer des choses. Et alors que tu vas, avec le modèle de maladie mentale tel qu'il est décrit aujourd'hui, au fond, tu remets uniquement une espèce de responsabilité individuelle. Tu crées la figure de gens qui savent pas se contrôler, qui sont des. Tu vois, en employant des mots qui sont des mots qu'on peut appliquer absolument à tout le monde. Hein. C'est-à-dire quand tu vas entendre les gens qui savent pas, qui sont intolérants à la frustration, tu peux dire ça Tu vois. C'est quoi la.
Je prends.
C'est dans ce cas-là, on est tous. Tu vois.
Mais alors ouais, première chose, donc il n'y a pas d'espace où alors il faut attendre très longtemps où on peut se confier en dehors de son médecin traitant pour dire bon ça là ça va pas ou alors il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'endroit dans la société, même avec un point de vue médical, donc un point de vue expert, où on peut avoir un espace où on peut avoir un moment de repos, en tous les cas un moment de décharge, justement, de la souffrance psychique ou simplement la souffrance passagère qu'on peut avoir, quoi. Ou alors, il faut attendre, tu le disais, très très longtemps pour pouvoir avoir un rendez-vous. Est-ce que ça a toujours été comme ça, ou est-ce que cette situation, elle s'est dégradée par rapport à ce qu'on peut avoir depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années?
Je sais pas si on m'entend là dans le.
Mais micro. Si, moi je t'entends, ouais. Hein.
Mais ça marche à fond.
Ouais.
Ok. La situation ne cesse de se dégrader comme dans tout l'hôpital en général. Y a effectivement, au niveau de la formation, les techniques qui ont été mises en avant, promues depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, sont des choses, des techniques qui permettent. De réadapter les moins souffrants, mais qui ne prennent absolument pas en compte les gens qui sont très loin du monde dans lequel on vit et qui demandent qu'à en être rapprochés. Mais pour ça, il faut du travail au long cours, il faut des lieux de confiance, qu'on y revient, il faut tout un travail de la part des équipes soignantes pour créer une alliance avec les patients. Et ça, en fait, c'est plus l'objectif actuel. On n'en est plus là. Le patient... C'est d'abord un allocataire dont on a fait un ennemi parce qu'il fraude socialement. C'est quelqu'un qu'on doit mettre à Pôle emploi. Donc s'il est à Pôle emploi, c'est un ennemi.
France Travail.
Déjà, voilà. J'ai raté un épisode.
Ouais, donc voilà. Quelque part, effectivement, le système psychiatrique est en déshérence.
Total.
Alors, comment dire. On nous vend une médecine de pointe en nous disant on travaille sur la génétique parce qu'on engloutit des millions dans la recherche quand même sur la psychiatrie. hein, et pas du tout dans le soin. Et donc la recherche, le traitement, hein, donc on cherche des médicaments, on teste des médicaments, parce qu'on ne parle pas souvent de ça, mais il y a quand même des grands tests grandeur nature. Il y a plein de médicaments dont on entend au bout de quelques années finalement, en fait, ça pose plus de problèmes qu'autre chose. Hein. Donc évidemment, les fous, on peut se permettre d'expérimenter. Mais surtout, je voulais dire que le climat actuel où l'État fait de tous les citoyens des ennemis, de quelque façon que ce soit, comme je disais, France Travail, les allocataires de la CAF, grosso modo, les pauvres, vous êtes suspects. Et donc, quand on se crée des ennemis comme ça, faut pas s'étonner qu'en face, ils vous prennent aussi pour l'ennemi. Hein, je crois qu'il y a un certain retour de bâton des politiques générales. En plus de ce qui se passe en psychiatrie. Quoi.
Bah, c'est pas ouais, les deux premiers éléments, je retiendrai dans ce que vous avez dit, c'est la médication. Donc c'est un marché. C'est aussi, y a des gens qui ont des intérêts très clairs. Pour ceux qui voudraient aller voir cette série dont, ça y est, j'ai oublié le nom, mais c'était sur le commerce des opioïdes aux États-Unis. Puisque aux États-Unis, il y a plus de morts par overdose que par arme à feu, hein, faut quand même le signaler, et dans des espaces notamment semi-ruraux, hein, notamment dans les vieux espaces industriels. La série me reviendra, mais bon, c'était un médicament qui avait été inventé par une boîte.
C'est les laboratoires Purdue.
Purdue. Ouais. Tu te rappelles du nom de la série ou pas?
Non, la série, je la connais pas. Je connais pas la série, mais par contre, il y a eu plusieurs médicaments en cause aux États-Unis.
Tout à fait.
Notamment l'oxycontin et le fentanyl.
C'est ça.
Qui sont aujourd'hui répandus au-delà de la médication dans tout ce qui est trafic de drogue.
Donc, pour une société sans souffrance terrible. Un type d'exemple. Morts, ouais.
Pas que aux États-Unis maintenant.
Et puis le deuxième mot, c'est la contrainte. De fait de rentrer dans un rapport de force avec le patient ou avec l'individu. Donc du coup, c'est pas des bonnes bases pour commencer une relation de confiance, hein, on va dire. Hein.
Moi, je voudrais ramener un peu sur le plan politique, parce que tout à l'heure, on disait donc qu'en effet, c'est très long pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un psychiatre, et en plus, il n'est pas garanti que ça va bien se passer, quoi. Parce que quand même, dans la majorité des cas, alors on finit par avoir un rendez-vous, en effet. Après, avec quel psychiatre, pour quelle thérapie? J'aime pas trop parler de prise en charge, donc on va parler plutôt de thérapie ou de soins, encore que soins. Donc il y a des gens qui vont en effet avoir un premier rendez-vous avec un psychiatre, où il va y avoir une ordonnance longue comme le bras, et on se revoit dans 3 mois pour en discuter. Bon, est-ce que c'est un soin? Est-ce que cette personne va aller mieux dans les 3 mois? J'en suis pas sûr. Un des nœuds du problème, à mon avis, il est là, quoi. D'autre part, il faut savoir quand même qu'en France, il y a à peu près 1200 postes de psychiatres qui ne sont pas pourvus. Dans l'hôpital public, voilà, parce qu'il y a une vraie fuite des quelques professionnels qui restent vers le privé, parce qu'évidemment, le privé est beaucoup plus lucratif et rémunérateur, et moins dangereux, en fin de compte. Enfin, moins dangereux dans le sens où il y a moins de prise de tête, quoi. Il est plus facile de soigner des gens qui vont pas trop mal que ceux qui vont vraiment mal. Ceux-là, on les retrouve à hauteur de 30 à 40% plutôt en prison, et tout à l'heure, j'entendais jusqu'à 60% des gens qui sont à la rue, en réalité, auraient besoin d'un soin, quoi.
Sur Paris, 60 000 SDF sans domicile fixe, 60% de personnes qui nécessiteraient une prise en charge psychologique, voire psychiatrique.
Bah oui, on en est là, ouais.
C'est pas étonnant en même temps, hein, soit tu avais des problèmes avant et dans ton parcours ça t'a amené à la rue, enfin ça a aggravé les facteurs qui t'ont amené à la rue, soit tu vas à la rue et c'est tellement hard que tu développes aussi des phénomènes comme ça. Et en l'occurrence, on savait que l'individu qui a été mis en cause à Annecy, par exemple, était SDF depuis bientôt 7 mois, alors qu'il était demandeur d'asile et qu'il devait être normalement dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, quoi. Donc voilà. Je te laisse poursuivre, pardon, tu disais 1200. Il y a combien d'hôpitaux en France?
Je sais pas combien il y en a. Ce que je sais, c'est que maintenant, les hôpitaux ont été regroupés dans des grosses structures qu'on appelle...
GHU,
alors ça y en a combien ? Hospitalier universitaire, ça, il y en a une quarantaine en France. dans le même temps, il y a à peu près 50 centres experts qui sont développés au sein même de ces GHU. Les centres experts, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lieux où, là, il va y avoir un réel tri par pathologie. C'est-à-dire, si... Bon, alors, il y a tout un tas de pathologies. Hein. Ça va du bipolaire en passant par le schizophrène, il y a les dépressifs, TDAH, enfin, tout un tas de... Il suffit de feuilleter le DSM, hein, le numéro 5, je vous le recommande.
Bon, c'est quoi un peu le DSM ?
Le DSM, c'est un manuel qui recense tous les...
Les maladies entre guillemets, ouais.
Tous les stigmates et en fonction d'un certain nombre d'items, voilà, si vous avez ça plus ça plus ça plus ça, bah vous avez donc cette pathologie et donc en fonction de ça vous avez tel traitement. C'est un peu
comme
ça,
bingo, quoi.
Ouais, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On pourrait dire que s'il y avait une véritable relation, et là je parle de relation, c'est-à-dire entre humains, entre le soignant et le soigné, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin d'ouvrir le DSM. Peut-être que la relation pourrait permettre déjà d'établir un premier lien qui permettrait de ne pas forcément catégoriser. Et puis là, on retombe dans toute cette question de la stigmatisation. Parce qu'une fois qu'on a l'étiquette, alors il y a des étiquettes qui sont plus faciles à porter que d'autres, hein. Je veux dire, ceux qui sont étiquetés schizophrènes, paranoïdes ou je ne sais quoi, là pour eux, c'est la catastrophe, quoi. Alors qu'il est plus facile de porter d'autres étiquettes moins stigmatisantes, on va dire.
Il y a une quantité incroyable de maladies décrites, enfin pas forcément décrites, mais recensées dans le DSM, alors qu'en réalité, il n'existe pas tant de médicaments que ça. Il y a 5 ou 6 classes de médicaments, 5 ou 6 variations par classe. Et donc, en fait... à la fin, ils vous disent qu'ils font correspondre à un traitement et à un diagnostic, mais il y a tellement peu de médicaments qu'ils sont prescrits dans quasiment tous les diagnostics. Et en fait, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Ils les essayent les uns après les autres et puis ils voient bien celui qui marche ou pas, quoi.
Tout à fait.
Et,
ouais.
Et oui, c'est-à-dire que si un patient a un traitement et à un moment donné, on trouve que ce traitement n'est pas assez efficace, c'est assez courant de changer le diagnostic pour autoriser... de passer à d'autres prescriptions. Donc, si tu veux, des médicaments qui ont des autorisations de mise sur le marché pour une pathologie précise, puis après, tout d'un coup, on peut aussi les donner à le dépressif, au bout d'un moment, il va pouvoir se retrouver avec des médicaments qui ne sont pas particulièrement des antidépresseurs, par exemple. Bon, voilà. Mais cette petite cuisine-là, parce que c'est empirique, la psychiatrie, si encore elle se fait en dialogue avec le patient, pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'en effet, si le traitement il est discuté avec le patient et que le patient peut parler des effets secondaires, etc., bon, voilà, ça, c'est, du coup, ça va cheminer vers trouver quelque chose qu'après la personne concernée reconnaît comme lui faisant du bien. Enfin, on n'est pas des. Enfin, il y a des médocs qui peuvent aider. Il ne s'agit pas de dire il ne faudrait plus de donner de médocs. C'est pas du tout l'idée presque. Enfin, il y a des personnes qui, si tu dis que tu as un traitement, ils vont te dire oh là là, mais pourquoi tu prends cette merde ? Et puis il y a une autre personne, si tu dis que tu n'en prends pas, ils disent ah, mais comment ça se fait que tu ne prends pas. Enfin, c'est des. Chacun, voilà. Si au moins ça reste quelque chose qui peut être discuté singulièrement avec le professionnel, ça va. Le souci. De cette possibilité de la contrainte en ambulatoire, et c'est pour ça que c'était un très gros déclencheur pour la création de l'association, c'est que, en fait, le rapport de force avec la médecine, à ce moment-là, il est très différent. C'est-à-dire que soit on fait confiance et on est d'accord et on accepte le traitement, si on n'est pas d'accord, ah là là, t'es dans le déni de la pathologie, je te force. Donc c'est soit t'acceptes, soit je te force. Donc y a, là, c'est pas tout à fait les conditions du dialogue, quoi.
Moi, je voudrais expliquer aux nombreux auditeurs qui nous adorent, soins sous contrainte, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ça veut dire que une personne va recevoir à domicile le matin et le soir un infirmier qui arrive avec sa petite Clio blanche et qui vient lui mettre la pilule dans la bouche. Et c'est pas rien quand même. Moi, j'ai été très marqué il y a quelque temps par un témoignage d'une dame, qui avait une cinquantaine d'années et qui, à moi, m'a paru plutôt stable, même si elle avait un t-shirt anarchie, mais bon, pour moi, c'est pas un signal très probant. Mais en tout cas, cette femme était sous contrainte.
C'est un signe de bien-être, non ?
Oui, pour moi, c'est plutôt un signe de bonne santé mentale. Mais en tout cas, toujours est-il que cette dame était sous contrainte en ambulatoire. Et elle nous expliquait que, donc voilà, le matin à 9h, l'infirmière débarquait dans la cour de son habitation, et le soir à 17h, pareil. Et c'était obligé. Ce qui fait que cette femme ne pouvait pas avoir de vie, quoi. Le matin, il fallait qu'elle soit debout à 9h parce que l'infirmière déboulait, et en fin de journée, il fallait qu'elle soit présente chez elle parce que l'infirmière redéboulait, quoi. Et si elle n'était pas là, c'était un problème. Et le problème, c'est la réhospitalisation sous contrainte, alors voire même en isolement ou sous contrainte. Enfin, attachée, quoi, pour le coup.
Et là, une sorte de bracelet, quoi. Une sorte de tôle, ouais.
Oui, on peut carrément parler de tôle. Je sais pas si beaucoup de gens se sont déjà passés par une chambre de soins intensifs, comme on appelle ça aujourd'hui. En réalité, c'est une paillasse en béton, un peu comme dans les cellules de garde à vue, un pot de chambre, pas d'horloge, une porte fermée et basta, quoi. Bon, après, il y a eu quelques remous au sujet de, justement, ces traitements monstrueux d'un autre âge qui sont appliqués à nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est un peu régi par la loi, c'est-à-dire que c'est plus fait comme c'était fait il y a encore 2-3 ans. Maintenant, le psychiatre doit remplir un genre de carnet dans lequel il marque que, en effet, il est venu voir toutes les 6 heures si la personne était bien, si elle s'était pas fait pipi dessus. Ça reste quand même une technique assez barbare et inhumaine, à mes yeux. Quoi.
Ouais, enfin, quand tu lis quand même les comptes rendus du défenseur des droits, non pardon, du contrôleur général des lieux de privation de liberté,
elle ne fait que constater des abus, quoi.
Enfin, tu dis quand même qu'on est quand même resté très très 19e siècle, et donc tu poses la question de quand tu vas pas bien et que tu te confies et donc que tu attends de la part de la science médicale ou de ce qui est censé représenter le soin. Et que tu te prends des trucs comme ça, forcément, ça te crée des blessures et des lésions. Alors, on va reprendre notre souffle pendant 2 minutes, on va s'écouter un peu de son, et puis on essaiera de comprendre pourquoi on n'a pas le droit de pas aller bien dans cette société. We'll be right back. Voilà, on est en train de discuter de chiffres et de tout. Et alors oui, on se demandait oui combien ça pouvait représenter. Et puis déjà, pourquoi on n'a pas le droit de pas se sentir bien dans cette société et dans la société, et que donc forcément il faut cataloguer ça sous un terme médical, donc maladie, et ensuite après traiter le problème, en tous les cas le soigner. Alors on disait. Mais combien il y a de personnes qui pourraient...
En fait, ce qui est troublant, c'est que tu vois, on va entendre dire souvent que, enfin, par l'OMS, par les pouvoirs publics, etc., que la santé mentale, il y a 20% de la population qui aura dans sa vie besoin de, enfin, qui aura un problème de santé mentale. Alors, ce qui est évidemment, il n'y a pas 20% de la population qui a un diagnostic de schizophrénie, de troubles bipolaires, d'autisme. Enfin, voilà, c'est bon, par exemple, pour les bipolaires, je crois que c'est 2%. Je crois que j'entends. Mais on ne sait pas si c'est de l'épidémiologie vraiment ou si c'est des chiffres qui circulent. Mais enfin, en tout cas, quand on entend 20% de la population, il est évident que ce n'est pas 20% de personnes qui vont avoir besoin de suivi au long cours, intense, etc. C'est la souffrance psychique en général. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est que le mouvement qui est récent, dans ces dernières années, le changement idéologique autour des représentations, c'est d'en faire des maladies qui ont des réponses médicales, qui se soignent comme des maladies, encore une fois, dites comme les autres. Ce qui est une manière de dépolitiser des questions, enfin, de refermer tous les questionnements possibles sur pourquoi cette souffrance est apparue. Donc, c'est très emmerdant que quand quelqu'un se suicide sur son lieu de travail, on vienne lui dire, il avait une maladie, et c'est cette maladie qui explique ce geste. Et pauvre homme ou pauvre femme qui n'avait pas été diagnostiqué et qui n'avait pas été traité. Voilà. Donc, le modèle de la maladie, il aurait envie de s'étendre à un peu toutes les souffrances. D'ailleurs, les promoteurs, d'un côté, il n'y a pas de place en psychiatrie et les listes d'attente, etc. Donc, mais en même temps, elle a comme un peu l'ambition, mais ça c'est idéologique, de médicaliser les souffrances, d'avoir des réponses qui soient des réponses expertes, etc., et qui dispensent de se poser d'autres questions à peu près tout. C'est-à-dire que même le deuil, ça peut être, enfin, au bout de 15 jours, si on n'est pas retourné en pleine forme, c'est pathologique, enfin, etc. Voilà. Après, sur la question qui préoccupe, enfin, la mission sécuritaire de la psychiatrie, c'est pas pour les 20, hein, c'est pas quand même pas non plus, tout le monde ne s'en aperçoit pas. Parce qu'il y a des discours très enthousiastes, on promet plein de belles choses, qu'aujourd'hui ça aurait fait des super progrès, qu'on s'est bien soigné, que tout le monde peut se rétablir, voilà. Donc en fait, on met en valeur les parcours réjouissants de gens en effet qui vont mieux, et comme un peu si ceux pour qui ça va toujours pas, il y a dû y avoir un truc qu'ils n'ont pas fait bien, quoi, hein, ils n'ont pas bien fait ce qu'on leur disait de faire. Voilà, ça crée un peu un truc comme ça, ce modèle de cette promesse de tout va, en fait, maintenant on s'est soigné, parce qu'on s'est soigné des gens finalement qui ont peut-être pas les pires choses, quoi, voilà, hein, donc on rétablit, tant mieux, voilà, mais c'est le continuum qui est un peu. Il y a un peu bizarre, comme je disais, il y a la possibilité de contraindre, ça peut se passer sur absolument tout le monde, quelque part, sans aucune suspicion, d'aucune sorte de dangerosité, hein. La contrainte, c'est pas réservé à des gens qui auraient commis, qui auraient giflé quelqu'un ou qui auraient je sais pas quoi. La contrainte, c'est possible absolument sur tout le monde. C'est, enfin, la contrainte au traitement, hein, on parle de ça. Enfin, imposer des traitements médicamenteux, c'est possible sur absolument n'importe qui. À supposer qu'il soit quand même, pas exagéré, à rentrer sous contrainte à un moment donné à l'hôpital. Après, je voulais juste dire un truc sur... Fred, tu disais tout à l'heure qu'il y a des étiquettes plus faciles à porter que d'autres, et que voilà, le schizophrène, on peut le lire dans le journal, hein, le schizophrène paranoïde, ce serait le dangereux, ce serait lui. Alors c'est absolument, il y a aucun diagnostic prédictif de dangerosité. Schizophrène paranoïde, ça veut juste dire que le symptôme, enfin, que ce qui est très présent, parce qu'il y a plein de formes de schizophrénie, et que ok, la personne a des symptômes d'hallucination ou de délire ou etc. Ça veut pas dire paranoïaque, mais bon. Donc ça, cette personne-là, elle est pas plus sujette à péter un câble et à faire un acte désespéré ou à se suicider que peut-être un dépressif qui serait au fond du trou et qui va tuer toute sa famille ou je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, il n'y a pas de les diagnostics, aucun n'est prédictif de dangerosité.
Non, mais si on avait ce même type de réflexion, on pourrait dire que, par exemple, il y a une femme qui décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, et donc, il faut soigner...
Tous les conjoints sont dangereux. Ouais.
Voilà, il y a un truc sur la masculinité. Je pense qu'on devrait pouvoir stigmatiser un peu. Voilà. Je sais pas si c'est la testostérone ou quoi, mais...
On est déjà pas mal stigmatisé, moi, en tant que vieux mâle blanc, je me fais bien prendre la tête. Moi, je voudrais revenir sur un chiffre qui, moi, m'effare quand même, c'est cette histoire de 100 000 personnes par an sous contrainte. C'est incroyable. Beaucoup, c'est vraiment énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
ça
parmi...
Ça
paraît dément, hein, c'est le cas de le dire.
Ça veut dire qu'il y a une industrie quand même derrière de la contrainte.
Ça veut dire aussi que parfois, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Par exemple, un psychiatre qui aurait un patient ou une patiente avec qui il aura un bon feeling, un bon contact, à un moment, il sent que ça ne va pas bien chez cette personne, il se dit, putain, il faut absolument que je lui trouve une place parce que là, elle a besoin d'un soin un peu intensif, quoi. Le seul recours qu'il va avoir ce psychiatre ou cette psychiatre pour pouvoir prendre soin de cette personne, ça va être de le mettre en soins sous contrainte de manière à libérer une place dans une institution, parce que des places dans une institution il n'y en a plus, parce qu'il y a de moins en moins de places, hein. Je ne sais plus combien de lits ont disparu au cours des 20 dernières années, mais c'est monstrueux, quoi.
Tous.
Ouais, quasiment, ouais. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce mécanisme de soins sous contrainte parce que c'était la seule solution pour pouvoir prendre soin d'eux. Et ça, c'est un vrai drame, quoi.
Avoir un soin, ouais.
Ouais. Ouais.
C'est un, on va
même
dire,
s'ils étaient demandeurs, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que même quelqu'un qui sollicite une hospitalisation, il va être sous le régime de l'hospitalisation contrainte parce que l'hôpital accueille essentiellement les gens qui ont en urgence la crise et tout ça, ce qui fait que ça fait des temps d'hospitalisation très... Enfin, on leur demande qu'ils soient très courts. Alors, tu vas dire, ça peut être tellement maltraitant, l'hôpital, qu'on pourrait
parfois,
dire...
Parfois, ça vaut mieux que ce soit court.
Génial, génial, fermez tout, etc., parce que c'est l'horreur. Donc, après, ces questions-là, elles méritent d'être posées, quand même. Hein. C'est-à-dire que, à force que... c'est pas qu'une question de sous-effectif, c'est aussi une question de comment on est fait, on est formé et voilà, et comment est-ce que les gens qui vont bosser là-dedans, enfin, aller bosser en psychiatrie si on n'a pas choisi de le faire et s'il n'y a pas un peu une vocation dans s'engager, enfin, il vaudrait mieux pas, quoi, parce que faut pas y être par hasard et faut pas y être contre son gré, parce que là je pense que c'est le... Enfin, c'est pour ça que la psychothérapie institutionnelle avait inventé cette idée. Je ne sais pas si c'est encore possible de dire que on peut soigner. Pour être soignant, il faut que l'hôpital, il faut avoir. Enfin, ils appelaient ça soigner l'hôpital, mais c'est-à-dire mettre une ambiance dans laquelle les hiérarchies, la bureaucratie, tout ça aujourd'hui qui revient en force, des professionnels qui en effet sont interchangeables, etc. Bon, quel sens ils peuvent trouver à leur métier, là pour le coup ça devient dur, donc l'hôpital, c'est vrai que le défendre aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il y va tellement mal que...
En plus, là on a parlé que de la partie médicale. Mais après, il y a la prise en charge, on va dire, sociale. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été diagnostiqué, tu rentres aussi dans un circuit avec les éducs, les AS, les tuteurs, les curatelles, etc., etc. Donc il faut pouvoir aussi avoir une sacrée force pour pouvoir essayer de récupérer un peu d'autonomie, quoi.
Ben, il se trouve quand même que... là, Olivia évoquait la psychothérapie institutionnelle. Il y a quand même des lieux où l'environnement social, on va dire, est pris en compte en même temps que les troubles qui peuvent t'affecter. C'est-à-dire, on va essayer de prendre le sujet dans sa globalité. Où est-ce qu'il vit? Comment il vit? Comment il s'alimente? Avec quoi il s'alimente? Qu'est-ce qu'il fait de son temps? Toutes ces questions-là vont être soulevées. On va essayer de trouver des solutions. Ça tend à autre chose. C'est-à-dire, on va soigner uniquement la partie, on va dire, pathologique, entre guillemets, avec les médicaments. Et pour le reste, on va déléguer ça au... Enfin, il y a le médico-social. Donc ça va être vraiment séparé, quoi. Il va y avoir la partie médico et puis une autre partie sociale qui ne sont pas liées et où il n'y a pas forcément d'interaction entre les deux. Bon, alors si quelqu'un se retrouve mal pris en charge en psychiatrie, il va s'enfuir. Plus jamais il voudra recevoir du soin parce que le soin finalement aura été maltraitant.
Enfin, souffrance encore plus.
Ouais. Voilà, ouais. Et si à côté de ça il tombe sur des travailleurs sociaux qui eux non plus ne sont pas tolérant vis-à-vis de son état à lui, ben, ils ne vont pas s'en occuper. Donc à la fin, le gars, ben, il se retrouve à la rue ou en prison. Quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Hein.
Tout à fait.
Alors qu'il y a quand même, on le sait, nous, et c'est pour ça qu'on en témoigne avec UMAPSI, on sait qu'il y a moyen, et ça prend du temps, mais ce sont des choses qui se traitent sur le long cours, il y a moyen de faire tout en même temps, de soigner à la fois le trouble qui nous affecte et aussi cette vie... cette vie compliquée, quoi.
Bah, tu disais, en fait, au début, quand ça s'invente, la psychothérapie institutionnelle, donc dans un hôpital, Saint-Alban, etc., il n'y a pas encore les médicaments. Les médicaments, ils arrivent dans les années 50, là, c'est avant. Et en fait, avant de s'appeler comme ça, en effet, c'est pensé comme une sociothérapie. C'est-à-dire que c'est exactement... Sauf que, bien sûr, dans ces hôpitaux à l'époque, en fait, les gens vont vivre là toute leur vie, c'est les familles les amènent, enfin les familles qui peuvent pas supporter la personne trop étrange, l'amener à l'hôpital et là il passait sa vie, mourir, etc. Mais vraiment, hein, enfin c'était à vie, quoi. Voilà. Mais l'hôpital comme était un microcosme dans lequel ils ont essayé de faire de la sociothérapie, de permettre aux patients de sortir, d'aller. C'est pour ça qu'ils sont pas morts de faim d'ailleurs pendant la guerre, parce qu'ils avaient des contacts avec les fermiers autour. Bon, voilà. Mais donc cette idée de les relations, c'est pas. C'est sociothérapie, c'est-à-dire que ça a été théorisé par des gens dont c'était le métier de s'occuper, enfin qui étaient chargés qui connaissaient les malades et qui donc se disaient qui ont eu ces intuitions qu'il fallait que les relations autour, tu vois, leur donnent envie de retrouver c'est Fred qui dit souvent ça comme ça, de retrouver du commun, quoi, voilà. Alors, sachant que aujourd'hui c'est beaucoup plus discontinu, il est plutôt question effectivement de l'ambulatoire, donc que ces lieux de socialisation et où on a des activités communes et tout ça, ce soit bien sûr pas à l'hôpital, hein, il ne s'agit pas de passer sa vie à l'hôpital, mais donc des endroits qui proposent ça, c'est quand même... c'est relativement rare. Voilà. Donc est-ce que quand on est l'entourage, est-ce que quand on est... parce que je crois que tu en venais un petit peu là, c'est que finalement, la façon dont parce qu'on parle de stigmatisation, mais c'est bien pire que ça. La plupart des personnes qui sont vécues comme étranges, elles sont très rejetées, quoi. C'est-à-dire que ça va pas aller en s'arrangeant avec ce genre de faits divers.
Ben, déjà, moi, je dirais qu'elles sont pas visibles. C'est-à-dire que, alors, j'habite dans un quartier populaire à Croix-Rouge. Où il y a des appartements sous gouvernance et il y a des gens qui ont visiblement certaines difficultés, mais qui sont visibles et que tout le monde connaît et avec qui tout le monde discute. Et moi, j'ai souvenir, je dis souvent cette anecdote-là, quand j'étais au collège, on prenait le bus au même horaire que des gens qui sortaient du CAT et aussi d'un centre de soins. Et c'était super parce que on se mélangeait, on se connaissait et on avait des échanges. Et puis dans la rue, il y avait des clochards, il y avait des gens qui picolaient et tout. On connaissait nos limites parce que des parents nous avaient dit attention, hein, là, fais gaffe, lui ça va, là tu vois, etc. Mais on n'avait pas peur. Deux, on savait qu'on pouvait ne pas se laisser faire si jamais ça devenait trop malsain ou trop dangereux. Et trois, ces gens faisaient partie de la société. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas ni en dehors, ni méchants, ni en tôle, ni... Enfin, tu vois, ils faisaient partie de la ville, quoi. C'était pas seulement des figures, parce qu'on connaissait les noms et tout ça, mais c'était aussi des gens qui faisait partie de la société, qu'on le veuille ou pas, je sais pas comment dire ça, mais c'était une donnée de la société. Et je me rappelle que quand j'ai eu en fin d'adolescence, il y en a un qui est décédé, et ben les gens dans la ville se sont cotisés pour lui payer un petit bout de terre au cimetière, quoi, pour pas qu'il soit dans la fosse commune, parce que c'était vraiment quelqu'un qui
du quartier,
quoi, et que c'était normal. Et aujourd'hui, T'as l'impression que tout a disparu, tout est propre, en tous les cas en surface, hein. Mais à l'intérieur des maisons, macache, quoi. T'as plus un seul mec qui picole en ville, quoi. C'est... Alors, on va d'ailleurs que je fais une fixation là-dessus, mais enfin bon, c'est quand même très, très, très remarquable, très, très donné. C'est comme si cacher cette merde que je ne voudrais pas voir, ah ben de temps en temps, ça déborde quand même apparemment. Et on se rend compte, parce que malheureusement on va devoir en finir, mais dans tout ce qu'on a évoqué là, et on revient à la question du début, en fait ces questions elles sont éminemment politiques quoi. Elles sont sacrément politiques. Et comment, bon courage pour la conclusion, il vous restera 4 minutes, comment est-ce que vous pourriez mettre des hypothèses en disant
Mathieu,
que...
Mathieu il a disparu, bah, Mathieu la conclusion là, ouais, c'est quoi
la
ça
la conclusion, pourquoi est-ce qu'elles sont absentes du champ politique, même on va dire des gens qui veulent transformer radicalement la société comme... C'est modestement le cas ici à l'Égregore. Pourquoi c'est évacué tout ça ?
Ben parce qu'à mon avis, on est quand même dans une société très saniste, très scientiste.
Du soin, ouais.
Du soin, ouais. Et en plus, on est quand même dans le chacun pour soi. Hein. Je veux dire, il y a dans les librairies et dans les bibliothèques, il y a tout un tas de livres qui vous apprennent à mener votre barque au mieux, quoi. Vous pouvez rencontrer même un coach hein, qui peut vous aider à faire en sorte que votre vie ne déborde pas trop sur celle des autres. Je pense que tout ça, c'est lié, quoi. Hein.
L'injonction au développement personnel. Tu as entendu la question que je posais ?
Non.
On demandait, alors que ces questions sont éminemment politiques, pourquoi elles sont, un, dépolitisées, deux, elles sont pas réappropriées par les gens qui font de la politique et qui ont vocation à interroger radicalement la société.
Je pense pas qu'elle soit pas si elle soit si peu réappropriée par ceux qui se préoccupent réellement de politique et qui veulent changer la société. Je pense que c'est plutôt ceux qui font la politique actuellement sans s'en préoccuper qui n'en tiennent pas compte, ouais. Ou alors qui en tiennent compte, mais à l'inverse, plutôt dans la logique des années 30, en allant vers les premières personnes sur lesquelles on a testé l'abattage de masse, quoi. Notamment les personnes folles et mal en point avec le plan T4 chez nos amis nazis.
Et puis il y a aussi...
Pas amis d'ailleurs.
C'est très joyeux.
Il y a aussi l'orientation politique justement. Je veux dire, aujourd'hui le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit on va essayer de remettre au boulot ceux qui vont le moins mal et pour les autres on va trouver d'autres solutions.
En l'occurrence, la Belgique.
La rue, la prison ou la Belgique. Mais quand même.
Pourquoi la Belgique, j'ai pas.
Parce qu'en Belgique, il y a tout un tas de.
J'ai cru que t'allais déporter les gens qui allaient pas bien en Belgique.
Bah, c'est ce qui se passe. Ils sont pas déportés, mais il y a beaucoup de foyers de vie, notamment à la frontière franco-belge, de création en ce moment, depuis une dizaine d'années, de lieux de vie à la frontière franco-belge. Et donc, beaucoup de malades sont envoyés parce qu'il y a que là qu'il y a de la place pour des lieux de vie, du soin au long cours, de l'accompagnement au long cours. En fait, on ne veut plus faire ça en France. Et donc, il y a une bonne partie des malades qui sont délocalisés en Belgique.
D'accord, délocalisation des malades.
Mais c'est bien la Belgique qui a de la bière et des frites. C'est
oui,
bien.
Non, mais tout à fait. On n'en doute pas. Mais
Et d'ailleurs, la Belgique a gardé une culture du soin beaucoup moins...
Hard.
Beaucoup moins violente que celle de la France, quoi.
Bah pourquoi pas en Chine, hein, ça serait encore moins cher ou ailleurs.
Ouais. Mais là, les parents peuvent encore qu'aller les voir, quoi.
C'est ça. Écoutez, on n'aura pas eu le temps d'aborder toutes les questions qu'on aurait voulu, mais je pense que...
C'est pas grave, on reviendra.
Voilà, je pense que c'était intéressant de justement illustrer ce fait divers par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour le déplacement et pour vos lumières. Je crois que effectivement, on aura certainement l'occasion d'en reparler parce que le sujet est vaste. Pour ceux que ça intéresse, il y a toujours Humapsy que vous pouvez contacter via les réseaux sociaux.
On a un site internet,
quoi.
Sinon c'est vrai. Humapsy.wordpress.com.
Voilà, donc il y a tout ce que vous avez dit qui a été développé, puis vous pouvez entrer en contact parce que vous n'êtes pas tout seul. Toutes les questions que vous vous posez, il y a déjà des gens qui se les ont posées. Ils n'ont pas forcément les réponses, mais on se fait qu'ils essayent d'en trouver, quoi. C'est déjà pas mal, et puis c'est toujours mieux de réfléchir à plusieurs que tout seul. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. L'émission évidemment réécoutable sur le site et sur les ondes de Radio Primitive. Et puis on espère que on pourra redire des bonnes nouvelles et revenir vers vous très bientôt. Merci beaucoup.
Merci à bientôt. Au revoir.
que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat, et pas le capital! 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 Protéger le climat, et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.